Le travail prend une très grande place dans la vie actuelle. Des hommes et des femmes vont jusqu'à sacrifier des pans entiers de leur vie pour leur entreprise, sachant que leur place est chère et aujourd'hui, il faut se battre pour la garder. Dans ce climat ultra concurrentiel, pas facile de vivre sereinement. Stress, dépression, les maux physiques mais aussi psychiques liés au travail sont de plus en plus nombreux. Comment en est-on arrivé là et comment expliquer les rouages d'un tel système? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec vous, Marie Romanins, bonjour.
Bonjour Béatrice.
Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Maltraitance au travail, les effets pervers du harcèlement ». Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre?
Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est ce que j'ai entendu en cabinet depuis 10-12 ans, pas plus. Un discours nouveau qui est apparu une fois, deux fois, trois fois, dans des bouches très différentes, avec des gens qui exerçaient des métiers très différents. Et c'était un discours que j'avais pas entendu avant. Disons qu'il y avait quelques personnes qui pouvaient souffrir à certains moments de conditions de travail, soit qu'elles se trouver dans des conditions difficiles, pour X raisons, qu'il y avait un patron pénible ou un service difficile, ou bien que ces personnes avaient de la difficulté à s'intégrer sur le plan professionnel, mais c'était exceptionnel. Alors que là, il y a quelque chose qui est apparu, qui est un discours semblable, dans des bouches que je dis très différentes effectivement, puisque c'était des métiers qui allaient de l'ouvrier au professeur, aux gens qui travaillent dans le social, aux ingénieurs, des choses qui semblaient absolument semblables. Et ça m'a interpellée.
Vous expliquez que généralement on venait vous voir pour parler de problèmes familiaux ou liés au passé, à la vie personnelle.
Oui, bien sûr, c'est notre travail en tant que psychothérapeute d'écouter toute cette histoire-là. Et là, c'était quelque chose d'autre qui apparaissait sur le plan social, sur le plan de la profession.
Alors, vous êtes posé la question d'une véritable violence collective qui existerait dans le monde du travail?
Alors, j'en suis pas arrivée si vite, là. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, des fois, on voit arriver, effectivement, quelque chose de l'ordre du collectif dans le cabinet. C'est rare, mais ça peut, des fois, surgir. Comme quand j'ai écrit Le Divan et le Prie-Dieu, j'ai parlé des personnes qui parlent d'une éducation religieuse qui a été pénible pour eux, par exemple. Mais la plupart du temps, les gens parlent de leur histoire individuelle, leur histoire personnelle et familiale. Et puis, là, je me suis dit, mais quand même, ce discours est le même chez des gens très différents. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose de collectif? Mais avant d'en arriver à l'hypothèse d'une violence collective à l'œuvre, bon, j'ai mis du temps d'abord à écouter tout ce que j'entendais et à essayer de rechercher, de lire, de comprendre, de faire parler des gens autour de moi pour en arriver là, finalement.
Donc, sont venus dans votre cabinet à la fois des cadres, des employés, des ouvriers, tout niveau social. Et qu'est-ce qu'on vous raconte?
Alors, le grand thème, c'est « je subis trop de pression ». Je subis trop de pression. Alors, à l'époque, au début, il n'y avait pas encore les 35 heures. Mais les 35 heures n'ont pas changé beaucoup de choses, parce que même s'il y a plus de temps de vacances, c'est encore plus concentré dans les 35 heures. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse vite, beaucoup, beaucoup de choses, le plus vite possible et le mieux possible. Et donc, ça fait un stress énorme. Et avec ça, il y a une insécurité de plus en plus grande. L'échelle est mise haute, la barre est mise haute, si bien que les gens ont toujours peur de pas y arriver. Et puis, il y a de plus en plus d'emplois précaires, donc des CDD, des intérims, du travail en sous-traitance. Et donc, ça fait que les gens se sentent vraiment en insécurité. Ils ont toujours peur de l'épée de Damoclès, c'est-à-dire, est-ce qu'il va pas y avoir licenciement? Est-ce que je vais pas perdre mon emploi? Est-ce que ma petite entreprise va tenir la route, etc.
Vous prenez l'exemple d'Anne-Marie, qui est directrice des ressources humaines et qui travaille 60 heures par semaine.
À l'époque, elle travaillait 60 heures par semaine, effectivement.
Et qui assure le travail de deux personnes ou trois personnes.
Oui.
Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme qui arrive comme ça chez vous, qui peut se confier? Il y a un tiraillement parce qu'il y a une réalité qui est découverte, mise en parole chez vous. Et puis, il y a l'entreprise, on est obligé de fonctionner. Sinon, on part, on s'en va. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, en plus, cette personne-là était mère toute seule avec ses enfants. Donc, il n'y avait pas d'autres salaires qui pouvaient arriver. Donc, pour elle, elle était prise entre la nécessité de continuer ce travail et puis l'intérêt, c'est ce travail. Et en même temps, une contrainte sur le plan de ce qu'il fallait faire au point de vue travail qui était énorme, et aussi une souffrance, alors ça c'est une autre souffrance d'ordre éthique, parce qu'elle assistait à des choses avec lesquelles elle n'était absolument pas d'accord, mais même si elle ouvrait la bouche, elle se faisait guère entendre, donc il y avait une réelle souffrance.
cautionner des pratiques malhonnêtes, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre livre. Oui. Il y a d'autres exemples qui montrent qu'un homme, une femme, dans une entreprise, à un moment donné, est amené à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, mais qu'il doit faire sous la pression.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a l'exemple, je me rappelle plus de son prénom, parce que comme je les ai changés, je me rappelle plus exactement, mais c'est un homme qui a travaillé dans les grands magasins, et on lui disait, quand il voyait un produit périmé, il disait, bon, il l'a porté, en disant, il est périmé, on lui disait de le remettre en présentation. Donc, lui, ça lui faisait mal au cœur. Je donne quelques exemples de choses comme ça qui se passent, où les gens, ils sont obligés de s'incliner, et ça leur convient pas, évidemment.
Vous dites que la seule façon parfois de sortir de ce cercle infernal, c'est de tomber malade.
À l'extrême, oui, parce que c'est arrivé une ou deux fois. Je pense à quelqu'un comme ça qui avait dit « je suis si mal et tout, vraiment, c'est trop de pression, mais je peux pas m'arrêter parce que financièrement, je peux pas me le permettre, etc. » Et puis c'est mal vu. Et puis, donc elle a continué. Et puis, 3 mois après, elle a été clouée avec un mal de dos.
Et alors, il y a la question de la dévalorisation de soi-même, oui, qui peut arriver, oui, dans cette surcharge de travail.
Oui, parce que il y a beaucoup de concurrence qui est mise entre les gens, c'est-à-dire on les incite à être le plus performant, donc automatiquement la barre est haute. Et si on a une tendance un peu à se dévaloriser, quand on voit ça, on se dit, bon, mais alors, j'y arrive pas, donc je ne vaux pas le coup. Il y a une tendance à rentrer dans cette problématique.
Alors un autre cas, c'est la mise en rivalité dans une société de salariés entre eux.
Oui, 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 par exemple des tableaux comparatifs où on montre le chiffre qu'un tel a fait, le chiffre que l'autre a fait. Alors évidemment, si on n'a pas fait un bon chiffre, on n'est pas très glorieux.
Mais c'est des pratiques courantes, ça.
J'en ai entendu parler plusieurs fois, oui.
Dans le système de vente notamment, où il y a
dans
des commercial, chiffres
c'est,
à réaliser.
Le commercial, hein. C'est fréquent apparemment.
Alors, comment vous êtes-vous devant tous ces mots qui sont apportés dans votre cabinet de psychanalyste? Comment est-ce que vous arrivez à peut-être à faire avancer les choses?
Mais déjà au début, bon, j'étais étonnée. Je me suis dit, mais là, qu'est-ce qu'il me raconte? On n'est plus dans la cure, là. On est dans autre chose. Et puis en même temps, je voyais que ces personnes-là avaient vraiment besoin de parler de ce qui se passait, donc je les ai laissées parler. Et c'est vrai que ça leur a fait du bien déjà de pouvoir déposer le paquet à un endroit, de pouvoir le dire à un endroit où là, il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de risque, et ils étaient entendus. Et on leur disait pas, mais attendez, vous inventez, là, c'est pas vrai, etc. Donc ça leur a fait du bien. Puis petit à petit, comme ils étaient aussi en démarche par rapport à eux-mêmes, ils se sont rendus compte que peut-être ils pouvaient prendre un peu les choses autrement. Donc c'est là où aussi on voit qu'il y a une partie qui revient aussi, que tout ne vient pas de l'entreprise, des dirigeants, etc., mais qu'il y a aussi la façon dont on prend les choses. Et ils ont pu avoir un peu plus de recul, se rendre compte que peut-être aussi ils se laissaient trop faire, ou ils se laissaient embarquer dans trop d'heures, et que peut-être ils pouvaient prendre les choses un peu autrement. Je pense à une personne notamment qui mangeait en un quart d'heure entre midi et quart, hein, parce qu'il fallait vite retourner aux affaires. Et là, elle s'est dit non, j'arrête. Et désormais, je prendrai 3 quarts d'heure et pas moins. Voilà, des petites choses comme ça, mais qui fait que ça leur a donné un peu plus de respiration.
Vous voulez dire que la personnalité, le caractère, l'histoire de la personne va faire qu'elle va résister plus ou moins à la pression
bien
d'entreprise.
Bien sûr, il y a des façons de réagir différentes. Mais quand même, ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose de collectif. C'est-à-dire, il y a la façon dont les gens réagissent au niveau individuel. Alors, on va réagir plus ou moins bien, suivant sa force de caractère, suivant aussi ce qui se passe par ailleurs dans la vie. Et si on a des problèmes affectifs très grands, c'est sûr qu'on sera plus fragilisé. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre du collectif, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier.
RCF.
Marie Romanens, vous dépeignez dans votre dernier livre un univers du travail plutôt sombre, avec des témoignages très nombreux sur la souffrance vécue, la dévalorisation de soi-même, la perte de confiance. Vous n'êtes pas seule à faire ce constat, puisque vous parlez des médecins qui ne sont pas psychothérapeutes, qui ne sont pas psychanalystes, et qui eux-mêmes font ce constat d'une violence exercée.
Oui, je voudrais quand même mettre un bémol, parce que c'est sûr que, vu de ma place, j'ai entendu ce qui est de l'ordre de la souffrance. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui y travaillent sont dans des conditions abominables. Je pense qu'il y a des endroits où il y a suffisamment de respect, il y a suffisamment d'attention à ce que les salariés soient traités convenablement. Donc il ne faut pas généraliser. Simplement, que je renouvelle ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un discours nouveau qui est apparu qui montre qu'il y a même quelque chose qui a une tendance quand même à apparaître un peu partout et donc qu'il faut la prendre en considération et y réfléchir. Alors effectivement, les médecins, j'ai quelques amis médecins avec qui j'ai parlé, ils font exactement le même constat. J'ai d'abord parlé avec eux parce que je me suis dit, mais ce que j'entends, est-ce que d'autres l'entendent? Donc j'ai été leur demander et effectivement, et les gens viennent avec des souffrances, des maux de tête, des insomnies, des dépressions, beaucoup de fatigue. Bon, ça peut être plus grave, hein. Il y a une augmentation des cancers, par exemple, ou des troubles cardiovasculaires, des troubles digestifs. Bon, et tout ça, ils se rendent bien compte que c'est lié à l'excès de stress. Je me suis aussi tournée vers mes collègues psy qui aussi font le même constat. Donc il y a vraiment quand même quelque chose de curieux qui se passe.
Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années, puisque ça remonte à une douzaine d'années?
Oui, et c'est vrai que les autres psys auxquels j'ai parlé, ils disent la même chose. Ça remonte à une douzaine d'années environ. C'est là où je me suis posé la question. Là, j'ai commencé à rentrer dans une réflexion et à interroger autour de moi. Il se trouvait que j'étais dans un milieu où il y avait beaucoup d'ingénieurs. Des ingénieurs qui étaient en fin de carrière ou qui commençaient à prendre leur retraite. Et donc, ils m'ont expliqué un petit peu comment ils avaient vu l'entreprise se modifier et comment petit à petit, le pouvoir financier est devenu de plus en plus grand et a fait pression pour que les gens qui travaillent produisent plus. Et bien, produisent plus et fassent donc plus de rentabilité.
Alors ça, on connaissait déjà ce mouvement depuis des dizaines d'années, hein, avec l'industrialisation. Oui. On se pose la question de la place de l'homme, finalement. Et l'homme dans tout ça?
C'est-à-dire que il semblerait, d'après les études que j'ai regardées sur le plan macroéconomique, qu'il y a eu une grande accélération au moment de la dérégulation qui a été faite par Reagan, Thatcher, et qui finalement s'est propagée un peu partout, en Europe aussi, avec de plus en plus un libre marché. Et donc, une régulation beaucoup moindre qui fait que les pouvoirs financiers pouvaient avoir plus de champs libres pour exercer de la pression sur les entreprises.
Et donc faire.
Et ça, c'est dans les années 80 que c'est arrivé. Donc effectivement, nous, la souffrance, elle est arrivée dans les années 90.
Donc vous voyez vraiment un lien entre les deux. Hein.
Absolument.
Vous écrivez qu'en France, on estime de 1 à 2 millions le nombre de salariés touchés par le harcèlement moral au travail. Alors on va peut-être définir ce qu'est le harcèlement moral, parce que beaucoup de gens sont plus ou moins bien dans leur travail, mais aller parler de harcèlement, c'est fort.
Alors le harcèlement moral, de mon côté, je pense que c'est comme la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a une souffrance générale, mais qui n'est pas du harcèlement moral. C'est simplement ce trop de pression, cette dévalorisation, cette insécurité. Et puis, à certains endroits, dans certains contextes particuliers, avec certaines personnes, ça vient carrément faire du harcèlement moral. C'est-à-dire que ça se cristallise, en quelque sorte, dans une situation donnée où il y a un harceleur et un harcelé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fait pression et qui a une malveillance constante, parce que ça, c'est une définition qu'il faut bien savoir, c'est que c'est sur le long terme, c'est-à-dire plusieurs semaines, plusieurs mois, où vraiment une personne subit le harcèlement de quelqu'un.
Alors, il y a un harceleur et un harcelé. Qu'est-ce qui se passe là, entre les deux?
Et il y a le contexte.
Qu'est-ce qui se passe? Prenons un exemple.
Alors, il s'agissait d'une personne qui travaillait en crèche, et effectivement, qui a eu une directrice qui a eu des malveillances constantes avec elle, bon, qui lui supprimait ses primes, qui ne lui donnait pas les vacances correctement, jamais dans les bons moments, qui lui arrêtait l'ordinateur, enfin qui lui a l'accès à l'ordinateur, enfin tout un certain nombre de choses comme ça, et jour après jour, jour après jour. Donc c'est vrai que cette personne finalement, elle a fait une dépression.
Elle
au bout de plusieurs mois, elle a craqué et elle a dû partir. Alors ce qui se passe Ça, c'est des situations qui sont bien connues, qui ont été montrées plusieurs fois par les médias, par la radio, par la télévision. Et ce qu'on constate, c'est que ça peut avoir lieu parce que le contexte, les gens autour ne disent rien. Et si les gens disent quelque chose en disant « mais attendez, c'est pas normal que cette personne soit traitée comme ça et tout », en général, ça s'arrête. Mais quand les gens ont quand même une certaine peur, peur aussi pour leur emploi, peur que ça leur arrive aussi, souvent, ils se taisent et donc ça peut avoir lieu.
C'est la loi du silence.
Oui, on peut dire, bon, c'est pareil, il ne faut pas généraliser, mais il y a un certain silence parce que c'est dangereux pour soi-même.
On peut être entraîné dans un cycle de répétition, par exemple être harcelé quelque part, partir et puis être à nouveau harcelé.
C'est-à-dire que ça fragilise la personne. En l'occurrence, cette personne, elle était très anxieuse à l'idée de reprendre un autre travail parce qu'elle se rendait compte qu'elle n'avait plus confiance en elle. C'était très difficile de récupérer la confiance et c'est vrai que ça fait des dégâts considérables. Donc après, elle arrive... Bon, on voit très bien, quelqu'un qui arrive avec beaucoup de confiance et tout, on va avoir moins tendance à aller le chercher. Alors que quelqu'un qui arrive un petit peu comme ça, pas trop savoir, timide, inquiet, il va être plus facilement la proie.
Et vous expliquez que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les personnes harcelées ne sont pas des sujets faibles, mais qui ont de la personnalité, actifs, compétents.
Oui, c'est ce que j'ai compris parce que j'ai assisté à une conférence et à toute une journée d'études avec des collègues là-dessus. Et ils montraient qu'il n'y avait pas un profil de personnes particulièrement fragiles, que c'était des personnes comme tout le monde et même qui pouvaient susciter des jalousies à cause de leurs compétences ou bien des personnes qui dérangeaient parce que peut-être y avait un problème de grossesse. Alors bon, ça allait faire un arrêt de travail ou des personnes qui avaient 50 ans ou des personnes qu'on aurait envie de se débarrasser ou des personnes qui étaient très bien payées. Et on pensait que si des jeunes arrivaient moins payés, vous voyez, des choses comme ça.
Qu'est-ce qui peut se passer pour une personne harcelée pour que les choses changent ? Comment changer ? Comment faire changer la situation ?
Alors, c'est très difficile. Marie-France Irigoyenne en a beaucoup parlé dans le harcèlement moral. C'est très difficile. Ce qu'on conseille à la personne, c'est d'abord de trouver du soutien, de trouver des personnes à qui parler. Donc, et maintenant, il existe pas mal d'associations qui écoutent ces personnes-là, qui les conseillent. Donc, se tourner vers des gens qui peuvent les entendre et aussi les conseiller. Et toujours s'en référer aux faits. Parce que si on rentre dans le discours, comme c'est un discours très manipulateur et pervers, on s'en sort pas. Donc, s'en tenir vraiment aux faits, tel jour, et ne les noter. Tel jour, il s'est passé tel fait, à telle heure, de telle manière. Telle personne était témoin. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent aider à construire un dossier.
Et parler à quelqu'un.
Voilà.
Repère, Béatrice Soltner.
Marie Romanas, nous poursuivons notre discussion autour de votre dernier livre, Maltraitance au travail, les effets pervers du harcèlement. On a l'impression, en lisant votre livre, que c'est impossible d'être soi-même pratiquement. Enfin bon, vous prenez des situations difficiles, mais comme une incapacité à être sujet dans l'entreprise. Il y a comme une machine qui vous écrase à chaque fois quand vous essayez d'être vous-même. C'est impossible.
Oui, alors toujours pareil, je nuancerai mon propos parce que je pense que ça dépend des endroits et qu'il y a des endroits où on peut être suffisamment soi-même, heureusement.
Non,
heureusement.
Mais par exemple, je pensais à la grande distribution où il y a des
pratiques
terribles. Ah,
mais voilà,
terribles.
Oui, ben là je me suis référencée à Grégoire Finoulonenko qui a écrit un ouvrage sur justement son expérience auprès de Carrefour. Et bon, maintenant il paraît-il que ça a changé des choses depuis qu'il a écrit son bouquin, mais c'est vrai que c'est effrayant quand on voit ça. Mais il explique lui-même qu'il y a été participant, c'est-à-dire qu'il avait des ambitions, il pensait y arriver, il a été assez naïf et il a joué le jeu aussi. Il faut le lire aussi.
Alors, comment peut-être retrouver son identité quand il semble qu'on l'ait perdue et qu'on ne sait plus quoi faire, coincé entre des petits chefs, vous appelez les petits chefs qui nous oppriment, et puis des collègues qui ne veulent peut-être pas nous écouter parce qu'ils veulent, eux, être protégés. Ça peut être très difficile, on se sent extrêmement seul dans ces cas-là.
On peut se sentir extrêmement seul. C'est pour ça que de plus en plus, il y a des personnes qui se mettent à entendre, justement, ces gens en souffrance qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les médecins. Mais ça peut être l'esthéticienne, ça peut être le coiffeur. Là, j'ai eu récemment une journaliste qui m'a téléphoné en disant, écoutez, on entend un discours qu'on n'entendait pas avant. Ça m'a fait rire. Et j'ai dit, oui, ça arrive maintenant chez les journalistes parce que les gens téléphonent en disant, mais attendez, ce qui se passe dans mon service, je veux le dénoncer. Moi, j'ai été en prise avec ça, j'ai essayé de me battre, j'ai été au prud'homme, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les médias le sachent. Donc, vous voyez, d'essayer de parler autour aux personnes qui peuvent entendre. Ça, déjà. Mais aux personnes qui peuvent nous entendre, qui ne vont pas dire « Attends, tu inventes, sûrement c'est pas ça, etc. » De pouvoir déjà le dire.
Est-ce qu'on peut parler encore aujourd'hui à son patron, par exemple? Parce que, vous parlez beaucoup de la hiérarchie, de la manière dont sont construites les entreprises aujourd'hui. Et à vous lire, on a l'impression que les patrons, on ne sait pas où ils sont. Il y a les actionnaires, parfois on ne sait pas qui dirige qui.
C'est-à-dire, de ce que j'ai compris, parce que ça, c'est pas ma spécialité, vous comprenez bien. Alors, j'ai lu beaucoup, j'ai interrogé. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une tendance à ce que les entreprises soient modifiées dans le sens des réseaux, où à ce moment-là, les décisions sont beaucoup plus distribuées à l'horizontale. Donc, c'est plus difficile de se repérer au niveau hiérarchique. Il y a des très bonnes choses parce que ça permet aussi à chacun d'être plus autonome et de prendre éventuellement plus de place, d'avoir plus de potentiel de s'exprimer. Mais en même temps, ça peut effectivement poser des problèmes dans le sens de plus savoir à qui vraiment on a affaire. Cela dit, moi j'ai entendu aussi des gens parler de ce qui se passait avec leur patron et ça se passait bien, ou suffisamment bien. Il y avait suffisamment de dialogue et ça allait. Mais il y a d'autres moments où ils tombaient sur un petit chef effroyable et où là il n'y avait aucune possibilité de dire quoi que ce soit.
Parce que vous évoquez l'ancienne structure telle qu'on la connaissait avant, assez pyramidale, avec un patron, après différents niveaux.
Qui avait ses bonnes choses et ses mauvaises choses, évidemment, parce que ça pouvait faire quelque chose de très fort au niveau du pouvoir et de l'imposition à ce moment-là aux salariés. Que là, la tendance à être en réseau fait que chacun peut, dans l'idéal, peut prendre plus de place. Mais après, si derrière il y a une pression financière énorme, ça peut changer beaucoup la donne.
Lorsqu'on a mis en œuvre les 35 heures, on a beaucoup parlé de la qualité de la vie, que ça allait vraiment améliorer la condition des femmes, mais aussi des hommes, des pères, qui allaient avoir du temps. Vous ne ressentez pas les bienfaits des 35 heures aujourd'hui ?
Pas vraiment, non. Je n'ai pas assez de recul pour dire vraiment. Parce que quand j'ai écrit le bouquin, il n'y avait pas encore, les 35 heures n'étaient pas encore effectives. Alors, donc, je ne m'y suis pas vraiment penchée dessus. Mais, de mon impression, pas vraiment. Il faudrait se plonger plus dans la question pour voir. C'est-à-dire qu'ils ont un peu plus de temps, mais par contre, ils souffrent autant. Et même, ça s'est accentué la pression au travail. Donc, ils rentrent chez eux avec ce poids.
Vous êtes psychanalyste, vous n'êtes pas économiste.
Non.
Quel a été justement votre état d'esprit quand vous avez entendu tous ces témoignages qui sont parfois très durs sur le monde du travail ?
Bien, c'est effectivement, quand j'ai commencé à m'interroger, c'était il y a une dizaine d'années, et je me suis dit, je vais essayer d'approfondir, comprendre, parce que vraiment, il y avait une question, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là ? Je veux savoir ce qui se passe là. Et donc, j'ai interrogé de plus en plus de gens, et au fur et à mesure que j'ai entendu les gens s'exprimer, j'ai moi-même souffert de ce que j'entendais, parce que je disais, mais c'est pas possible, il se passe ça actuellement. J'imaginais qu'effectivement, c'était pas tout à fait normal ce qui avait cours, mais c'était beaucoup plus énorme que j'avais pensé au départ.
Marie-Romaine Hinse, merci. Nous essaierons de comprendre la semaine prochaine ce qui se cache un peu derrière ces pratiques inhumaines, dures que nous avons évoquées aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, Maltraitance, les effets du harcèlement, paru chez Desclée de Brouwer.